Le passage que nous allons commenter se trouve au livre d'Isaïe, chapitre 58, versets 7 à 10. En voici la lecture. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra, si tu cries, il dira, « Me voici ». Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Alors je propose une petite introduction historique. Ce chapitre d'Isaïe, assez connu tout de même, chapitre 58, a été probablement écrit par ce qu'on appelle le Trito-Isaïe, c'est-à-dire un prophète dont on ne connaît pas le nom, mais qui s'est réclamé d'Isaïe. Et en fait, le livre d'Isaïe se divise généralement des chapitres 1 à 39. On pense que cela a été écrit par le prophète Isaïe lui-même, avec certains chapitres dans cette espèce de collection du chapitre 1 à 39 qui ont probablement été écrits plus tardivement, etc. Il y a un mélange, mais en gros c'est le prophète Isaïe lui-même qui en serait l'auteur. Chapitre 40 à 50, oui, me semble-t-il c'est 40 à 50, eh bien ça serait le Deutéro-Isaïe, c'est-à-dire écrit beaucoup plus tard que le 8e siècle avant Jésus-Christ, mais écrit juste à la fin de l'exil, avant le retour de l'exil de Babylone qui s'est passé au 6e siècle, l'exil et le retour dans le même siècle, après 70 ans d'exil, pour le peuple de Jérusalem surtout, et en partie de Juda, disons l'élite, eh bien, le Deutéro-Isaïe se caractérise par beaucoup d'optimisme et des lendemains qui chantent. Et puis vous avez le Trito-Isaïe, chapitre 50 à 60. Je suis plus sûr hein, à quelques chapitres près, hein. Mais 58 c'est sûr que c'est dedans. C'était écrit disons par un prophète encore plus tardif. Le peuple est déjà retourné d'exil, il a déjà commencé à revivre à Jérusalem et il se rend compte que tout n'est pas rose, que contrairement à ce qu'annonçait le Deutéro-Isaïe, ce qu'annonçait le retour de l'exil, eh bien les choses ne vont pas forcément mieux. Et contrairement à toutes les espérances, eh bien, c'est pas tout de suite le paradis sur terre, si j'ose dire. Alors le peuple d'Israël, enfin le peuple de Jérusalem se décourage. Alors le Trito-Isaïe, lui, ce qu'il essaye de montrer à ce peuple de Jérusalem, c'est que la richesse du peuple d'Israël ne se trouve pas dans les richesses matérielles, dans un royaume à la Salomon dont on rêverait, ou du roi David, d'une richesse et d'une gloire passée, mais c'est dans son Dieu et dans sa spiritualité. Alors ce passage se comprend parce que nous avons un peuple qui essaie de retrouver sa splendeur et qui a une politique parfois au-dessus de ses moyens et qui en fait les frais, les pauvres. Et là vous avez ce prophète qui est en train de rappeler à son peuple que ce qui est le plus important, c'est l'amour et la charité. Et nous, pour nous-mêmes, ce message déjà historique est important parce que l'Église et nous-mêmes nous devons nous rendre compte que ce qui fait notre richesse, eh bien c'est notre foi. Et notre foi, notre qualité d'amour est ce qui doit nous distinguer des autres et ce n'est pas une tradition ou une splendeur passée de l'Église par exemple, et ce n'est pas la force, d'où la nécessité de ne jamais d'ailleurs imposer sa foi par la force, c'est un petit peu ce que le texte dit, hein. Mais de toujours savoir que notre richesse ne se trouve pas dans la force, comme dit certains psaumes, mais dans le Seigneur, et donc dans l'amour. Le Christ lui-même n'a pas fait autre chose. Ce qui m'amène d'ailleurs à l'interprétation assez classique, traditionnelle, allégorique et typologique, où là on ne peut voir qu'une figure du Christ. Parce que qui, mieux que le Christ, a rempli ces consignes, ce mot d'ordre de partage ton pain, recueille chez toi le malheureux, ne te dérobe pas à ton semblable, hein, fais disparaître de ton pays le joug, etc. Jésus n'a jamais agi par la force, c'est dans Isaïe chapitre 42 d'ailleurs, où on dit que le serviteur du Seigneur, là aussi c'est une figure du Christ, n'a pas éteint la mèche qui séchait, etc. Et on n'a pas trouvé à pousser des grands cris. Le Christ a toujours accueilli celui qui venait à lui, les païens, etc., ce qui n'a pas manqué de choquer certaines personnes, quand il accueillait les pécheurs, hein, il n'a qu'à lire l'évangile. Et d'ailleurs, un de ses apôtres, c'est Matthieu, hein, le collecteur d'impôts. Eh bien, tout ça, le Christ l'a fait. Le Christ lui-même nous a montré le chemin à suivre. Et c'est tout la signification aussi de l'incarnation. Le Christ s'est fait homme pour servir, dit-il, et non pas pour être servi. Et le Christ lui-même est venu nous libérer du péché, nous libérer de nos propres défauts, nous libérer de la mort. Mais comment le fait-il ? Comme le dit de nouveau Isaïe 42 et comme le montre tout l'évangile, il le fait par la crucifixion. Il le fait en se donnant lui-même tout entier, par amour pour nous, pour nous apporter la possibilité de la résurrection. Jésus ne s'est pas imposé par la force. Il ne l'a pas voulu. Ça me rappelle le passage où il n'a pas été accueilli dans les villes des Samaritains et Jean et son frère Jacques voulaient envoyer le feu de la foudre pour punir les Samaritains et Jésus leur répond vertement qu'il est venu pour sauver et non pas pour détruire. Donc il faut bien voir dans que le Christ nous apporte une autre stratégie, une autre façon de faire. Lui-même, c'est par la croix qu'il apporte la résurrection. Alors concrètement dans notre vie, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, je vous propose de relire ce texte un petit peu avec le regard de la vie quotidienne, ce qu'on appelle le regard moral, et de la vie intérieure. Alors partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors je passe sur l'interprétation littérale qui est très importante, hein, une charité active, parce qu'il n'y a rien de mieux comme témoignage que cette charité active. Jésus, il n'y a qu'à lire le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, pour voir que Jésus nous demande la même chose, explicitement, hein, de ne pas se dérober, de faire 2 kilomètres avec celui qui nous en demande un, de donner sa tunique à celui qui vous demande, je ne sais plus, mais moins, et vous lui donnez sa tunique, etc. Le Christ lui-même ne nous dit pas autre chose. Cette charité active, il n'y a qu'à lire aussi 1 Corinthiens 13, pour voir que ce qui fait la marque du chrétien, c'est vraiment sa charité. L'Église ne s'y est pas trompée, elle qui a toujours eu des œuvres de charité, et qui a encore le Secours catholique et d'autres organismes. Mais un aspect plus profond encore que la surface du texte, c'est quand on dit « partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux, ne te dérobe pas à ton semblable, couvre celui que tu verras sans vêtements », c'est aussi une manière de nous appeler à ne pas juger. Trop souvent, nous voyons des gens qui ont l'air riches d'eux-mêmes, que nous ne supportons pas parce que nous voyons l'apparence. Alors que peut-être, si l'on gratte un peu, ils ont des blessures et ils ont faim, ils sont malheureux. Et on nous demande de ne pas nous dérober, de ne pas nous dérober à ces gens qui, malgré les apparences, qui ont l'air d'être sûrs d'eux-mêmes parfois, ou cassants, etc. Il y a une véritable souffrance. Et nous sommes appelés à adopter ce regard intérieur sur nos frères, et donc après, ça se justifie. Nous sommes appelés à faire disparaître le joug, le geste de menace, la parole malfaisante. Vous voyez, si l'on réagit sur les apparences, on réagit aussi de manière très superficielle. Le Christ nous appelle à avoir un regard intérieur sur les choses. Marc chapitre 7, hein, quand il dit que c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. C'est ce qui se passe dans le cœur qui est important. Et ici, il y a vraiment de quoi réfléchir. Nous sommes appelés à ne pas réagir superficiellement à cause d'un jugement superficiel basé sur les apparences, mais d'avoir un regard plus profond, plus pénétrant, où l'on voit les blessures intérieures qui peuvent générer telle ou telle agressivité. Et alors, au lieu de réagir de manière agressive, ce qui pourrait paraître légitime, nous nous sommes appelés à montrer de l'amour, de la prière, de la compassion. Et si nous faisons ça, le texte nous dit, eh bien, tes forces reviendront rapidement, et alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Oui, parce que au cœur des ténèbres, c'est ce que dit le texte plus loin, au cœur des ténèbres de ces souffrances intérieures que nous pouvons voir chez des personnes, eh bien notre comportement, notre prière, notre amour qui va de pair avec notre intercession, car cela ne fait qu'un, eh bien vont générer comme un aurore dans le cœur de ces gens à plus ou moins long terme. Et nos forces reviendront rapidement parce que nous verrons plus loin que les apparences. Nous verrons plus loin que cette personne qui paraît inchangeable, qui paraît irrécupérable. Alors nous aurons espoir dans le changement de cette personne. Et ici, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Ben bien sûr, parce que si on adopte ce comportement fait de compréhension, de compassion, axé sur la prière, ben nous accompagnons le travail de grâce du Seigneur et nous sommes dans sa volonté. Et librement, nous prêtons comme un surcroît d'humanité à cette incarnation du Christ. Et grâce à nous, le Christ prolonge son incarnation dans le cœur de cette personne dans lequel nous avons deviné des souffrances, qui nous permet de réagir avec un comportement beaucoup moins humain et impulsif et violent. Donc nous sommes dans la volonté du Seigneur. Donc il nous dit « Me voici ». Car là vraiment, nous accompagnons sa grâce et nous faisons un travail utile. Et on n'est pas surpris de ce que dit le texte à la fin. Hein, si tu combles le désir du malheureux, donc tous ces gens sont malheureux malgré les apparences, eh bien ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Bien sûr, dans les ténèbres des cœurs, eh bien nous faisons lever une lumière, celle du Christ. Car comme le dit Paul, je le disais, par notre humanité, nous prolongeons cette incarnation du Christ dans chaque cœur de toute personne pour qui nous prions et que nous aimons en accompagnement de notre intercession, avec l'aide de la grâce de Dieu, bien sûr. Eh bien, nous faisons comme lever une lumière chez ces personnes-là. Donc, vous voyez, ça génère un comportement totalement différent. Ce que je voudrais vous faire comprendre, et ce que moi-même, j'ai souvent du mal à comprendre, c'est qu'il y a certains comportements chez les gens qui en fait reflètent des blessures et qui appellent une réaction plus chrétienne, plus patiente, plus priante qu'une première réaction épidermique. Ce n'est que comme ça que vraiment notre lumière pourra se lever et que nous serons dans l'action du Seigneur et qu'il nous dira « Me voici ». Il n'y a que comme ça que le chrétien peut avoir un impact. De même l'Église dans la société, il n'y a que par un rôle d'amour et de prière que l'Église pourra vraiment impacter ce monde qui est bien malheureux malgré les apparences, hein, qui est nu, sans abri, malheureux, etc. Nous nous sommes appelés à ne pas nous dérober à ce regard compatissant intérieur guidé par le Christ. C'est bien ce regard que le Christ a dans les trois premiers chapitres de l'Apocalypse où il regarde les églises et dit notamment à l'église de la Odyssée au chapitre 3 qu'elle ne le reconnaît pas mais elle est nue, pauvre et blessée et qu'elle doit revenir vers le Christ. Eh bien notre rôle à nous, c'est par notre intercession et par notre comportement aimant, nous sommes comme des relais de cette parole du Christ qui dit dans l'Apocalypse de lui ouvrir son cœur et de reconnaître que nous sommes pauvres et nus. Et enfin, vous voyez ce texte aussi par rapport à nos propres souffrances intérieures. Ne nous dérobons pas à nos souffrances. Nous avons des blessures, nous ne sommes pas parfaits. Alors plutôt que d'avoir la parole qui blesse et d'installer le joug de la culpabilité sur nous, nous sommes appelés à faire place à la miséricorde de Dieu et à sa grâce, à nous abandonner à sa grâce toute puissante qui travaille dans nos cœurs. Il est là, il est prêt à nous dire « Me voici ». Donc dans toutes nos souffrances, eh bien, reconnaissons que nous avons besoin du Seigneur. Reconnaissons d'abord que nous avons des souffrances, que nous avons des problèmes, que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Alors il nous dira « Me voici ». N'ayons pas ce jugement superficiel sur nous-mêmes qui soit nous fait croire que nous sommes trop parfaits, ou alors nous plonge dans une culpabilité et nous installe un véritable joug, comme le dit le texte. Et alors plutôt que d'avoir une parole menaçante, d'être en colère contre soi-même et d'avoir un comportement mortifère, c'est la parole malfaisante, eh bien donnons de bon cœur à tous ces aspects de notre vie qui ont fin de la grâce de Dieu, fin de sa guérison. Exposons-nous à cette grâce guérissante dans nos temps de prière et surtout faisons-nous tout petits face à la grâce de Dieu en nous abandonnant à sa guérison miséricordieuse, à son action miséricordieuse qui n'est autre que l'Esprit Saint, la personne par excellence de l'amour. Voilà. Et enfin, je voudrais conclure, parce que toujours il faut avoir ce regard dianagogique sur la vie après la mort. Eh bien, ce texte nous dit que notre vie, cette vie sur terre, eh bien il faut la regarder comme elle est, et il y a beaucoup de malheurs, hein, il y a beaucoup de malheureux sans-abri, il y a du joug, de la menace. Cette vie, eh bien, elle essaye d'étouffer ce pauvre qu'est la vie éternelle, ce monde invisible que nous ne voyons pas. Eh bien, soyons ouverts vers ce monde invisible, accueillons-le, vêtissons-le, donnons-lui à manger en ouvrant notre cœur, ayons ce regard tourné vers le ciel. Alors, oui, nous serons aussi dans ce monde ces petites lumières qui montreront au monde qu'eh bien, il y a autre chose que cette réalité, qu'il y a autre chose que cette famine, et nous serons comme vraiment la lumière du monde. Jésus n'a pas fait autre chose quand il disait certes qu'il fallait agir en ce monde, et c'est le message premier de ce texte d'ailleurs, mais qu'il fallait agir en ayant les yeux levés vers le ciel, et que le véritable bonheur était la vie éternelle, et que les guérisons que Jésus faisait, sur le physique par exemple, ne faisaient que refléter son message vers un monde qui dépassait ce monde terrestre, vers le royaume de Dieu. Eh bien, nous, notre action doit être toujours nourrie dans la perspective du royaume de Dieu. Si nous avons un geste de charité, le faisons-nous aussi pour ouvrir les gens par notre intercession. Accompagne-nous ces gestes de charité par une intercession pour que ces personnes s'ouvrent à une réalité plus grande, qui est la présence du Seigneur, ce monde invisible, et qui débouchera, bien sûr, sur la vie éternelle. Nous sommes là aussi pour apporter cette vie éternelle à nos frères au cœur de ce monde qui est bien ténébreux. Eh bien, faisons place à ce monde invisible de la vie éternelle qui paraît bien pauvre et bien petit dans ce monde visible où tout nous ramène au matériel. Nous sommes là pour ouvrir une porte, pour montrer qu'il y a quelque chose d'autre, pour être cette petite lumière. Et alors vraiment, notre vie sur terre aura un sens pour nous-mêmes et pour nos frères. Et c'est ainsi que nous libérerons vraiment nos frères et que nous les nourrirons pleinement. Que notre action matérielle ne soit jamais dissociée de notre action spirituelle et priante, que l'un aille toujours avec l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à travers ce texte. Alors maintenant, ce que je vous suggère, c'est de prier avec moi. Et parfois, il y aura des temps de silence, et après que j'ai repris le texte, eh bien, profitez-en pour aussi accompagner ma prière et pour prier vous-même à partir de ce texte. Et ces blancs parfois ressemblent à des coupures, mais tant que vous n'entendrez pas fin de l'enregistrement, eh bien il n'y a pas lieu de couper l'enregistrement. Alors je vous propose d'abord une petite prière pour assimiler cette lecture et ce commentaire avant de nous lancer encore dans une lecture plus priante de ce texte. Oui, je te prie Seigneur, je te prie Saint-Esprit, afin que tu viennes écarter tout nuage, toute ténèbre, qui par le fait de nos péchés pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous une intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole, selon le mot du psalmiste. Ouvre mes yeux et je contemplerai les merveilles de ta loi. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. Seigneur, merci parce que toi tu l'as fait, tu as toujours accueilli, tu n'as jamais utilisé la violence, tu as toujours fait preuve de compassion. Déjà en t'incarnant dans un enfant, et puis tu as grandi au milieu de nous. Et comme le dit ta parole en Actes chapitre 10, Pierre le dit, tu es passé, tu as fait du bien, guérissant les malades et délivrant les possédés. Merci Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas nous-mêmes nous dérober au malheur des autres, à ne pas vivre égoïstement, mais vraiment à être décentrés de nous-mêmes pour pouvoir aider nos frères. Pour cela, Seigneur, donne-nous la force, d'abord être, aide-nous à être centré sur toi-même et à vouloir vraiment avoir ce désir d'accompagner ta grâce, oui, d'agir avec toi et en toi. Oui, Seigneur, donne-nous ce regard qui va plus profond et qui voit à travers certains comportements, certaines fanfaronneries ou orgueil, eh bien, des souffrances et des malheureux qui sont tapis dans le cœur, qui sont tapis dans les inconscients de ces frères qui parfois nous tapent sur le système, qui nous choquent. Seigneur, apprends-nous alors à faire preuve d'amour, de ne pas nous dérober à cette compassion que tu nous appelles à avoir. Oui, de ne pas nous dérober à cette compassion, laissant la place à un comportement bien superficiel et bien trop humain, au sens négatif du terme. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Oh oui, Seigneur, apprends-nous à ne pas nous décourager, justement en ayant ce regard vers la réalité invisible de ta grâce qui travaille en ce monde, dans les cœurs de nos frères, dans notre propre cœur aussi. Apprends-nous à regarder bien nos blessures et à les assumer dans la prière, en te les confiant en ton action. Alors oui, vraiment, Seigneur, nos forces reviendront rapidement, car nous verrons que des choses se passent au-delà des apparences. Oui, Seigneur, merci parce que si nous avons ce comportement, nous te demandons vraiment de nous équiper pour vraiment nous battre dans ce monde invisible de la prière et de l'amour. Alors tu nous diras, me voici. Tu es déjà là et tu demandes simplement que nous soyons à tes côtés. Comme Paul nous le dit dans l'Épître aux Colossiens où il dit qu'il achève dans sa chair les souffrances que tu as eues. Oui, pour toutes ces communautés qu'il a portées. Nous-mêmes, nous voulons vraiment déjà dans cette intercession, eh bien, te confier certaines personnes pour accompagner ton incarnation dans leur cœur. Oui, voilà, nous te confions certaines personnes. De même, nous confions certains aspects de notre vie, où nous sentons que ta grâce a besoin encore de travailler. Oui, me voici, tu le dis. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Oui, Seigneur, tu l'as dit. Oui, vraiment, si nous voulons faire lever une lumière dans les ténèbres de nos inconscients, dans l'inconscient de nos frères, dans les recoins ténébreux des cœurs de nos frères ou de notre propre cœur, au cœur de ce monde, eh bien, tu le dis. Nous devons vraiment avoir recours à tes armes qui sont la prière et l'amour et non pas à la force. Oui, Seigneur, apprends-nous toujours à aimer et à intercéder pour nos frères en allant au-delà d'un jugement cassant et superficiel. Seigneur, apprends-nous aussi par rapport à nous-mêmes à ne pas nous mettre sous le joug de la culpabilité ou parfois de l'orgueil. Oui, apprends-nous, Seigneur, vraiment à faire lever les ténèbres dans nos propres cœurs, dans nos propres vies, en nous confiant vraiment à ton action miséricordieuse et guérissante. Et enfin, Seigneur, oui, apprends-nous toujours à lever les yeux, à montrer, pour être toujours plus conscient que ce monde invisible paraît bien pauvre, nous qui sommes englués dans le matériel, mais que là est notre salut, que plus nous prendrons conscience que ce monde n'est pas la toute fin, la fin dernière, plus nous pourrons briller en ce monde. Et ce que je te demande pour nous, fais-le pour toute l'Église, qu'elle soit ce phare centré sur toi, sur ta personne, et non pas englué dans le matériel. Oui, vraiment, Seigneur, aide-nous à lever les yeux. Oui, amen. Oui, Seigneur, donne-nous l'intelligence plus claire de tes autres prophéties. Ouvre davantage nos sens à la vérité et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré. En toi, Christ Jésus, notre Seigneur, à qui appartient la gloire et la puissance. Amen. Oui, j'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes. Fin de l'enregistrement.